7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, le travail libère-t-il les femmes ? Vaste question. L'argent procuré par le travail, sans aucun doute, ça libère tout le monde. Mais le travail lui-même, cela mérite discussion. De plus en plus diplômées, les femmes sont désormais moins au chômage que les hommes dans plusieurs pays d'Europe, mais toujours moins bien payées et surtout pénalisées par des boulots à temps partiel. Et dans les pays en développement, notamment en Afrique, elles occupent massivement des emplois dans l'économie informelle, agriculture, petit commerce. Nous allons en discuter avec nos invités, Margaret Murray. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, spécialiste des questions de genre et de travail et vous publiez un ouvrage collectif « Je travaille, donc je suis » aux éditions La Découverte. Françoise Milewski, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques et du laboratoire Présage de Sciences Po sur le genre et vous êtes aussi membre du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Nous serons également en ligne avec Fatou Sossar, sociologue à l'université Charanta Diop de Dakar, où elle dirige le laboratoire Genre et Recherche Scientifique. Mais bien sûr, on a envie de vous entendre les voisines. Vous avez la parole, dites-nous ce que vous apporte votre travail, comment vous gérez votre parcours professionnel et votre vie personnelle. Quelle est la part de votre métier, de vos aspirations, de vos compétences dans la femme que vous êtes? Appelez-nous tout de suite, surtout n'attendez pas la fin de l'émission, au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le numéro de téléphone WhatsApp pour ceux qui ont Internet. Et vous pouvez aussi nous envoyer des messages écrits. Et bien sûr, les voisins, vous avez aussi la parole dans quelques instants. Alors, je vous lis quelques messages qui nous sont parvenus sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, vous pouvez les commenter, hein, Margaret Maruani et Françoise Milewski. Il y a les conservateurs comme Jackie Fidelis à Antananarivo, à Madagascar, qui nous dit « Ah, si j'avais les moyens, je ne laisserais pas ma femme travailler. » Il y a toujours une grande différence, nous dit Jackie, dans un foyer où la maîtresse de maison est présente. Si votre femme ne travaille pas, elle peut prendre soin de vous et de vos enfants comme il se doit. Alors, il a mis d'abord vous-même. Hein, le mari et les enfants ensuite, je ne sais pas. Mais c'est un point de vue qui est encore très partagé, non, Margaret Maruani, ce point de vue-là?
Le dire de cette façon, je crois que c'est de moins en moins répandu. Mais que cela continue à fonctionner dans un certain nombre de milieux, oui, sans doute. Je ne laisserai pas ma femme travailler, ça veut dire...
Si j'avais les moyens financiers.
Si j'avais les moyens, bien entendu. Ça veut dire c'est moi qui décide pour elle, d'une part. Bon, ça c'est un vrai problème. Et d'autre part, comment dire, le travail pour les femmes, il existe partout. Les femmes ont toujours travaillé, partout, à tout temps
reste
et sous
savoir,
toutes les latitudes. Reste à savoir
mais
quand
pas toujours
ce travail
payé.
Est reconnu.
Exactement.
Et quand il est payé. Ce sont ça les vraies questions, parce que ces femmes qui ne travaillent pas, elles font un travail domestique. Elles font, dans beaucoup de pays en Afrique, au Brésil, elles font du travail agricole qui n'est pas reconnu, qui n'est pas rémunéré. Donc la question, c'est pas qu'elle travaille, c'est qu'elle soit payée, qu'elle soit reconnue comme une travailleuse.
Le travail libère-t-il les femmes? Un témoignage amer de Lilia au Canada. Le travail ne libère pas les femmes, elles deviennent des esclaves car elles travaillent à l'extérieur, s'occupent des enfants et font tourner une maison. Sous-entendu, ça s'additionne. Tata, une voisine malgache à Abidjan. Le travail contribue à la construction d'une personne, le travail te confronte au monde et du coup engage. Ça, c'est un mot important. Le travail engage. À vous de contribuer, de partager et de réagir, les voisins et les voisines. Aubin est à la fois ouvert et inquiet. Les femmes sont parfois écartées de certaines tâches au profit du genre masculin. Et elles ont du mal à s'affirmer. Parfois aussi, le travail occupe les femmes au point qu'elles le font passer avant leur famille. Toujours cette inquiétude-là des hommes. Dimo à Libreville, il est célibataire. Le travail me libère. C'est une voisine. Le travail me libère car j'ai une occupation et en plus rémunérée. J'ai une liberté financière. Je peux satisfaire mes envies. Je me sens en position de force face à un homme car je ne pleurniche pas. Je suis épanouie. Que vous inspire ce témoignage de cette auditrice au Gabon?
Évidemment que c'est l'essentiel.
Françoise Milewski.
La question du travail rémunéré est une condition de l'indépendance financière. Et en ayant cette indépendance financière, ça donne une force aux femmes qui est évidemment très importante. Et je reprends les termes d'un de vos témoignages aussi, qui est, c'est la construction d'une personne, je suis confrontée au monde, c'est-à-dire que je suis dans un milieu social où je suis confrontée aux autres. Le problème est que certaines des formes du travail sont pénalisantes, pour au moins deux raisons, parce que parfois c'est des conditions de travail qui sont très dégradées, et donc certes il y a l'indépendance financière, mais c'est très court, c'est très limité. Et puis en plus, comme il n'y a pas de partage des tâches au sein de la famille pour s'occuper des enfants, du coup, c'est la double journée pour un certain nombre de femmes.
D'où la question, le travail libère-t-il les femmes ? C'est vraiment la question qu'il faut poser aujourd'hui, hein, on est bien d'accord.
Mais pour que le travail libère les femmes, il faut à la fois que les conditions de travail sur le marché du travail soient changées, et puis aussi que la répartition des tâches dans la famille soit changée. Parce que si les femmes travaillent et qu'en plus, elles ont toutes les tâches ménagères et toutes les tâches pour s'occuper des enfants à leur seule charge, c'est évidemment un problème.
Alors, bien sûr, vous avez la parole maintenant. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, 33 1 84 22 71 71. Vous nous suivez également sur Twitter en direct.
7 milliards de voisins,
on existe ensemble.
Et tout de suite, on prend une auditrice qui nous appelle d'Abomey-Calavi, au Bénin. Bonjour Eunice.
Bonjour Emmanuel.
Eunice, vous avez 23 ans et vous êtes une jeune professeure d'anglais au collège. C'est les toutes premières années où vous travaillez là, Eunice ?
Non, j'ai commencé l'année dernière.
C'est ça, donc un an donc de carrière de professeur au collège, vous êtes professeure d'anglais. Comment ça se passe et quelle est l'incidence du travail sur votre vie de femme aujourd'hui ? Racontez-nous.
Sur la question, le travail libère-t-elle la femme ? Moi, je dis oui. En tout cas, sur le plan financier, il permet à la femme de ne pas dépendre de son conjoint, d'assurer ses besoins elle-même, sans entendre son conjoint ou son mari.
Ouais. Et vous-même, vous êtes mariée ou pas ? Vous êtes mariée, Eunice ?
Non, pas encore.
Pas encore, d'accord. Mais cet argent-là, vous le gardez pour vous ou il est immédiatement reversé à la famille ?
Une femme qui vit a toujours besoin d'argent, quel que soit ce qu'elle fait.
Oui.
On a beaucoup de choses à dépenser. Il faut d'argent pour s'habiller, se nourrir et consort.
Et comment ça se passe au travail, Eunice ?
Au travail, pour la première fois, ce n'était pas du tout facile parce que quand on vous voit, on vous dit dans quelle salle on va vous mettre, surtout en tant que professeur. On privilégie plus les salles d'examen, mais ça de seconde, première, terminale, pour les hommes. Parce qu'on te demande, est-ce que cette femme-là, est-ce qu'elle pourra gérer ?
Est-ce qu'elle pourra gérer sa classe ? Ça veut dire que les classes où il y a un enjeu avec des examens, on va mettre des hommes par sécurité, d'une certaine manière, parce qu'on va plus faire confiance à des enseignants hommes. C'est comme ça que vous le ressentez, en tout cas.
Oui, c'est ce que moi j'ai ressenti, parce que quand j'ai commencé, on m'a juste donné une salle de la sixième. On m'a d'abord demandé si... j'aimais les enfants parce que je suis une femme.
Ah oui.
Eh bien, j'ai dit oui. Ils m'ont dit, bon, on va vous confier la sixième.
Et vous pensez qu'on vous a confié la classe de sixième parce que vous étiez une femme, mais pas parce que vous étiez une enseignante débutante, qui avait un lien avec le genre ?
Oui, parce que la première question qu'on m'a posée, c'est est-ce que vous aimez les enfants ? On va vous confier le primaire et la sixième.
Bon. Et aujourd'hui, après un an d'expérience, alors qu'est-ce que vous avez comme classe ?
Après un an d'expérience avec les résultats, ils ont voulu que je prenne autre classe à part la sixième, c'est-à-dire des classes comme la quatrième, la première. Et ce que j'ai constaté, contrairement à moi, cette année, et les débutants, les hommes débutants qui sont venus, on les a confiés deux salles.
Ah oui, ils ont eu deux classes directement ?
Oui, directement, sans problème, parce que, bon, c'est la psychologie
chez
les enseignants et autres, là, elle est fondée.
Alors, on voit bien que vous êtes une fine observatrice de cela et que vous le ressentez comme une injustice d'une certaine manière ou pas ?
Je ne le ressens pas ainsi parce que C'est ce qu'on nous a appris. On a déjà formaté cela dans la tête depuis le bas âge aux garçons. Et ils gâtent l'âge au fil du temps. Donc, c'est à nous, femmes, de prouver que nous travaillons, que nous pouvons faire le job. Et après cela, on gagne la confiance des fondateurs et autres.
Mmh. Merci Eunice hein, de nous avoir appelé pour ce témoignage, Françoise Milewski.
Oui, c'est bien le problème, c'est un témoignage qui est évidemment émouvant, c'est qu'une femme a toujours besoin de prouver ses compétences, c'est-à-dire que c'est pas, elle a des compétences, elle est prof, elle sait faire, mais il faut qu'elle le prouve, donc on lui donne d'abord une classe qui est censée ne pas avoir d'enjeu, parce qu'en tant que femme, elle saura s'occuper des enfants, et puis après un an, après deux ans, ben, éventuellement, on lui confiera d'autres classes, d'autres responsabilités. Il faut toujours prouver qu'on est compétente et les hommes n'ont pas toujours besoin de prouver ça.
Est-ce que le témoignage de Nice, elle est au Bénin, mais finalement, cette question-là, on la retrouve partout dans de très nombreux pays du monde, Margaret Maruani.
Oui,
est-ce
absolument.
Que c'est aujourd'hui la question centrale? C'est plus l'accès des femmes au travail, c'est à quel travail, à quel titre, avec quelle reconnaissance, comment?
Oui, alors il se pose différemment selon les endroits du monde. Moi, je voudrais dire, ce que ce témoignage montre de façon très éclatante, c'est à quel point le monde du travail est un lieu de contradiction. Parce que ce qu'elle dit sur son travail, c'est à la fois émancipation, je suis libre, j'ai mon autonomie économique, et en même temps, elle raconte la discrimination. Et je pense que ça, c'est vrai.
Et en toute liberté.
En toute liberté, oui.
Ce qui n'était peut-être pas le cas il y a encore quelques années, où
oui.
On ressentait une certaine forme de discrimination ou d'injustice, mais on n'avait pas tellement envie d'en parler finalement.
C'est ça.
Parce qu'on se disait à quoi bon.
C'est ça. Mais ça, c'est vrai que les femmes accèdent au monde du travail, alors au marché du travail salarié ou non salarié, selon les endroits, selon que l'on est en Europe, en Afrique, en Amérique latine. Mais il y a toujours cette contradiction. Les femmes accèdent au travail, mais sous le sceau de l'inégalité. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve partout, partout, partout. C'est très frappant de voir à quel point l'égalité dans le travail n'existe nulle part. Les femmes sont partout dans le monde du travail, l'égalité nulle part. Voilà.
Les femmes sont partout dans le monde du travail, l'égalité nulle part, à commencer par les salaires, même si on a énormément progressé. Je voudrais qu'on revienne à la question des salaires en France, parce que ça fait un moment quand même que ça fait vraiment débat. Le fameux un quart en moins, où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France, Françoise Milewski?
Eh bien, ça bouge pas beaucoup. C'est-à-dire que l'écart de salaire à peu près de 25% sur la masse des salaires donnés aux hommes et la masse des salaires donnés aux femmes.
Tout poste confondu, tout métier confondu.
Tout en travail.
Temps partiel inclus, bien sûr.
Eh bien, ça bouge pas beaucoup. C'est-à-dire qu'à une période, les écarts de salaire se sont réduits. Maintenant, ils ne se réduisent plus depuis maintenant plusieurs décennies. Donc là-dedans, il y a plein de causes.
Donc, quand on parle de un quart en moins, c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes, 30% hein, des femmes,
oui.
qui sont à temps partiel. Forcément, si on travaille à temps partiel, par définition, on gagne moins que si on travaille à temps plein.
Oui, c'est un vrai problème qu'il y ait tant de travail à temps partiel.
Bien
c'est
sûr.
Un vrai problème.
C'est un vrai problème, parce que dans le travail à temps partiel, c'est pas forcément le choix des femmes. Il y a beaucoup de femmes qui souhaiteraient travailler à plein temps et puis qui travaillent à temps partiel parce que tout le développement des emplois dans les services à la personne, les grands magasins, le commerce, la distribution, l'hôtellerie, tout ça, c'est des offres de travail à temps partiel. Et un certain nombre de femmes voudraient travailler à plein temps, c'est-à-dire qu'elles sont en situation de sous-emploi. Donc ce n'est pas forcément un choix.
Mais les vraies inégalités de salaire, c'est-à-dire à poste, à compétences égales, à caractéristiques professionnelles comparables, avec le même type de carrière entre un homme et une femme, là ça tombe à 9%. Mais
oui.
9% effectivement, parfaitement inexpliqué.
Oui, mais sauf que les inégalités de salaire, bien sûr, c'est pas seulement ces 9%. Parce que dans cet écart donc de 25%, si on enlève l'effet du temps partiel, mais qui est déjà une forme d'inégalité, ensuite on tombe à 17-18%. Là-dedans, il y a un effet secteur, il y a un effet qualification, et puis il y a cet effet discrimination pure.
C'est-à-dire que si vous vous occupez d'enfants, vous êtes moins payé que si vous êtes ingénieur dans l'industrie pétrolière.
Donc vous n'êtes pas même. Mais le problème très important, c'est la question du déroulement de carrière. C'est-à-dire qu'un homme et une femme qui rentrent à même niveau de qualification dans une entreprise, 5 ans après, ils n'ont plus la même qualification, ils n'ont pas eu le même avancement, ils n'ont pas eu le même déroulement de carrière.
Pourquoi ?
Parce qu'on considère, dans les entreprises, on considère qu'une femme va être probablement moins disponible pour son emploi parce que elle a déjà des enfants ou elle va peut-être en avoir. Donc il y a une espèce de ce qu'on appelle une suspicion d'enfant, même celles qui n'ont pas d'enfants ou celles qui ont fait le choix de pas en avoir. Mais il y a cette question de confiance à la fois sur le fait qu'elle sera moins disponible et que si elle a des enfants, ben, c'est elle qui s'en occupera davantage que les hommes. Donc du coup, elles n'ont pas le même déroulement de carrière. Donc on peut pas limiter l'écart de salaire simplement à cette composante qui est importante, qui est à qualification égale, il y a une différence de salaire. Il y a cette différence, 9%, c'est le chiffre que vous donniez, mais on peut pas le limiter à ça. C'est déjà important, cette discrimination pure et simple, mais l'écart de salaire, c'est aussi tout le reste. C'est les conditions inégales qui font que les femmes, finalement, n'accèdent pas aux mêmes emplois que les hommes.
Comment se situe la France par rapport à d'autres pays développés, Margaret Marbani?
La France se situe dans la moyenne. C'est pas très en avance, c'est pas très en retard non plus. Moi, je voudrais ajouter, il y a un autre problème en matière de salaire que celui de l'égalité à proprement parler et de la mesure des écarts. Il y a le fait que c'est développé en France et dans d'autres pays européens. Je pense notamment à l'Allemagne, on pourra en parler, toute une frange de population qui est en sous-emploi et qui touche des bas salaires.
Les fameux mini-jobs allemands où, en gros, on est à
450 euros.
Voilà.
Et là, c'est pas une question d'égalité ou d'inégalité, c'est une question que ce sont des gens, des femmes pour l'essentiel, qui travaillent pour des salaires indécents, qui travaillent sans parvenir à vivre de leur travail. Cela nous plonge au cœur de la
Alors, une femme qui est sur un emploi à temps partiel, un mini-job à 450 euros en Allemagne, ça s'appelle pas un salaire, déjà, 450 euros. Et à la question « le travail libère-t-il les femmes ?», là, la réponse, elle est immédiate, c'est non.
Le problème, c'est que ce n'est pas un vrai emploi. Ce sont des miettes de travail, c'est pas un travail. En Allemagne, quand même, il y a 7 500 000 personnes qui ont un mini-job. Alors, certains cumulent un mini-job et un autre emploi. Et ça, ce sont majoritairement des hommes. Et puis, il y a celles qui n'ont que ce mini-job 450 euros par mois. Et là, pour l'essentiel, ce sont des femmes. Alors là, voilà.
C'est ce qui permet à l'Allemagne de dire on a un des meilleurs taux d'activité des femmes en Europe.
Et un des plus faibles taux de chômage.
C'est ça.
Mais il y a également
pour
les contrats zéro heure dans des pays comme le Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'un certain nombre de salariés sont disponibles pour l'employeur qui les appelle en fonction du besoin. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'engagement d'horaire à effectuer et elles ne savent pas quel sera le revenu qu'elles auront à la fin du mois.
Je voudrais avoir votre sentiment, Françoise Milewski, sur la nouvelle loi qui va rendre obligatoire en France, là, à partir de 2019, pour les entreprises de plus de 250 employés, la publication d'un nouvel index sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Est-ce que c'est une bonne chose? Les entreprises vont être obligées de mesurer et de publier les écarts de rémunération, les répartitions des augmentations, quand il y a des augmentations pour l'ensemble du personnel, les rémunérations, la part des femmes dans ces augmentations de promotion aussi en termes de postes, la part des femmes dans les postes dirigeants, avec des risques d'amende qui pourraient atteindre 1% de la masse salariale. Est-ce qu'il faut compter, rapporter, c'est-à-dire dire sur son site internet où est-ce qu'on en est dans ces écarts salariaux hommes-femmes, et voir être pénalisé en tant qu'entreprise quand on ne fait pas le job?
Je crois que ce qui est une bonne chose, c'est que la loi soit assortie de contraintes. Parce que les lois sur l'égalité salariale, on en connaît depuis très longtemps, depuis les années 70, c'est même un principe constitutionnel en France, mais ça n'a jamais été mis en œuvre parce qu'il n'y a jamais de contraintes. Donc une loi sans contraintes, on ne voit pas pourquoi on la respecterait. Donc depuis 2012, il y a une forme de contrainte qui n'était pas encore suffisante et qu'on vient de renforcer. Ce qui est positif dans la législation actuelle, c'est qu'on est en train de passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultat. C'est-à-dire, en gros, si vous ne réduisez pas les écarts de salaire ou les écarts de durée entre deux promotions ou l'accès des femmes à des postes de responsabilité, vous serez sanctionné. Et donc, ça, c'est une contrainte et une obligation légale. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors après, comme toujours, même lorsqu'il y a une contrainte, il y a parfois les moyens de contourner. On voit bien avec les lois sur la parité.
Il y a des DRH qui pointent, par exemple, le risque de créer des injustices, notamment en attribuant des augmentations de salaire au retour d'un congé maternité. Puisqu'on dit beaucoup que les carrières des femmes, quand je dis carrière, hein, pas que pour les cadres, hein, bien sûr, mais sont pénalisées par les arrêts, par les congés maternité.
Ah oui.
Mais
ah oui.
Par rapport à celui ou celle qui a travaillé pendant le congé de maternité, le collègue, par exemple, qui a fait le même job et qui a travaillé, pourquoi une femme serait augmentée au retour de son congé maternité ?
Non, mais il y a une loi, en France en tout cas, qui dit que les femmes doivent bénéficier, qu'elles étaient en congé maternité ou non, elles doivent bénéficier des augmentations de salaire de leur équipe. Bon, elles ont une rémunération pendant leur congé de maternité, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on considère qu'elle n'est pas, elle ne doit pas être pénalisée par sa maternité. Or, en pratique, elle l'est déjà dans son développement de carrière. Donc, l'idée de la loi, c'est qu'elle ne le soit pas, en plus, sur la question salariale. Mais c'est très peu respecté. Les entreprises là-dessus, y compris de façon générale sur la loi que vous évoquiez, aujourd'hui, il y a que 60% des entreprises en France, malgré l'obligation légale, malgré la contrainte et le risque de sanction d'un pour cent au maximum de la masse salariale, il y a que 60% des entreprises en France qui ont un accord égalité entre la direction des entreprises et les syndicats. Et il y a à peine plus de 0,2-0,3% des entreprises qui sont sanctionnées. Donc c'est l'idée d'un engagement. Et puis une autre idée qui me paraît très importante, qui est de rendre public les choses dans l'entreprise. Et ça, du point de vue de la prise de conscience, c'est quelque chose de très très important.
Alors, on a fait un détour sur l'égalité salariale. La question de l'émission aujourd'hui, c'est le travail liberte-t-il les femmes ? Mais la question salariale, elle est vraiment au centre, à votre avis, de la question, Margaret Maruani, aujourd'hui, pour les femmes ?
La question salariale, elle est très importante. Hein. C'est
la question de la rémunération.
La rémunération, parce que c'est la reconnaissance du travail, parce que c'est le pouvoir d'achat, parce que c'est ce qui fait vivre, parce que c'est ce qui attribue une liberté plus ou moins réelle, parce que le travail, certes, procure une autonomie économique, mais qui est parfois et même souvent limité par la précarité, par le sous-emploi, par les bas salaires. Donc le salaire, c'est important à plus d'un titre.
Et on va en parler bien sûr de la précarité. Le travail liberte-t-il les femmes ? Vous avez la parole, les voisines et les voisins, au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins
et la planète se barre.
On accueille un voisin, Dany, qui est à Yaoundé, au Cameroun. Bonjour Dany.
Bonjour Emmanuel.
Dany, vous êtes pharmacien, je crois. Hein,
oui, Dany Abdallah, pharmacien, oui, Yaoundé, CHU Cameroun.
Ouais. Et vous êtes marié, pas encore d'enfant ?
Oui, pas encore, mais en cours.
D'accord, en cours, un enfant à naître donc. Félicitations, bravo. Dany, alors quel est votre point de vue ? Le travail liberte-t-il les femmes ?
Non, pas du tout.
Ah bon ?
Non, vous savez, chez nous en Afrique en général, on dit qu'il y a une différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie.
Oui.
Oui, alors réussir dans la vie, c'est avoir un travail, un emploi, un salaire donc. Mm-hmm. Mais réussir sa vie, c'est avoir un mari et des enfants, je parle du point de vue des femmes.
Oui.
Alors, à mon sens, en Afrique, de nos jours, une femme qui travaille, le travail ne libère pas la femme. Le travail apporte une seule chose à la femme, le travail la met à l'abri du besoin. Donc, il y a une espèce d'autonomie financière, elle peut s'offrir ce qu'elle veut, bref, tout ce que l'argent apporte, quoi, dans l'argent du travail. Mais si le point de vue de la vie, de la réussite sociale, je veux dire homme, enfant, mari, enfant, je trouve que la femme perd tout ce qu'elle gagne. C'est-à-dire le travail lui enlève ce qu'elle aurait dû avoir si elle ne travaillait pas.
Qu'est-ce que ça lui enlève, le travail, par exemple ? Votre épouse, elle ne travaille pas, j'imagine ?
Elle ne travaille pas et je ne voudrais pas qu'elle travaille. Mais je vous signale, je ne suis pas misogyne, je suis un mari aimant et j'aime ma femme. Mais ma femme, je la voudrais à la maison. Je veux la voir à la maison, je veux la voir me faire de bons repas, me faire de beaux enfants. Et à mon tour, je prends bien soin d'elle.
C'est
ça. Je ne suis pas macho, je ne suis pas misogyne. J'aime ma femme, mais je préfère qu'elle soit à la maison.
C'est ça. Alors vous dites bien, je la voudrais, je la préfère à la maison. Si votre femme, bon là, elle attend un enfant et probablement qu'elle va devoir s'y consacrer un moment. Si votre femme d'aventure souhaitait travailler, quelle serait votre réaction, Dany ?
Non, je ne voudrais pas que ma femme travaille.
Ah,
et on s'est arrangé dès le début.
Vous vous êtes arrangé dès le début, d'accord.
Oui.
Et elle est d'accord avec ce souhait ? De votre
elle
part.
Elle est d'accord et
enfin,
elle a
avec
eu
ce...
un mari aimant, amoureux d'elle, qui prend très bien soin d'elle, alors elle est très bien à l'aise à la maison.
Et quand vous dites réussir sa vie et réussir dans la vie, c'est pas la même chose. Et pour vous, c'est pas la même chose non plus en tant qu'homme, ou les deux se confondent, votre vie professionnelle et votre vie personnelle ?
Vous savez, l'homme être très bien différent de la femme, encore qu'en Allemagne, en France, aux États-Unis, un peu partout, il y a un certain déficit au niveau de la parité, c'est-à-dire de l'approche genre, c'est-à-dire un peu partout, dans l'armée par exemple, quand je parle aussi du point de vue occidental, aussi bien asiatique qu'africain, c'est-à-dire l'homme a toujours eu un certain dessus, même quand je parle un peu davantage, par exemple, au travail, au congé de paternité ou au congé de maternité déjà, et même dans les entreprises et tout, vous voyez, les hommes ont toujours eu un certain avantage sur la femme. La femme, c'est oui, d'accord, c'est l'employé qui plus tard ira en vacances, en congé de maternité, c'est l'employé qui aura des bébés, c'est l'employé qui a besoin de prendre soin de sa famille. Du coup, cela a un certain impact, cela empiète donc sur sa qualité d'employé.
Oui.
Alors, il y a donc des employés qui ont, de temps en temps, qui sont réticents à donner plus de postes de responsabilité, qui sont réticents à donner des postes de responsabilité à la femme, et ils préfèrent donc les hommes.
Et dans, dans votre pharmacie, vous employez des femmes ou pas, Dani, à Yaoundé?
Non, bon, de temps en temps, il y a des stagiaires, oui, mais à temps plein, non, que des hommes.
Et pourquoi?
Plus les hommes sont plus disponibles déjà.
Et pour...
Plus aptes au travail.
Plus aptes au travail?
Oui.
Ah bon?
Il y a une certaine aisance à exécuter ce dont j'ai besoin, la rapidité, et une certaine aisance aussi. C'est-à-dire, dans l'application déjà du travail, je trouve l'homme beaucoup plus apte, beaucoup plus accessible et surtout beaucoup plus disponible que la femme.
Le point de vue que vous émettez là, Dani, à la lumière de votre propre témoignage et organisation familiale, il fait débat chez vous au Cameroun ou pas? Tout le monde ne partage pas votre point de vue, non?
Non, du tout. Il y en a même qui sont en train de s'arracher les cheveux de la tête, là, en m'entendant parler, là. Je veux le faire des débits.
Qui s'arrache les cheveux par rapport à vos propos dans votre famille, voulez-vous dire?
Sûrement des personnes. Nous avons un ministère de la promotion de la femme et de la famille au Cameroun.
D'accord, bon.
Et nous avons aussi un certain respect des parités, nous avons un certain respect de l'équilibre de l'approche genre. Mais, de mon point de vue, pas de travail pour la femme.
D'accord. Bon, bah écoutez, ça a le mérite d'être clair. Merci, Dani, de nous avoir appelés. Merci pour votre franchise. On va donner la parole à une sociologue à l'université Charanta Diop de Dakar. Bonjour, Fatou Sossar.
Bonjour.
Vous avez entendu le témoignage de notre auditeur. Vous, vous dirigez le laboratoire genre et recherche scientifique à l'université, à l'UCAD, à l'université Charanta Diop de Dakar. Qu'est-ce que vous pensez du point de vue de Dani?
Le point de vue de Dani, c'est le point de vue de beaucoup d'hommes en Afrique. Mais ça ne correspond pas du tout à la réalité en disant qu'une femme qui travaille n'est pas libérée. Nous pensons que la première forme de libération, c'est le revenu économique de la femme. Et ça, c'est le travail qui lui apporte. Bon, maintenant, qu'il y ait des contraintes liées aux conditions sociales et religieuses dans lesquelles elle vit, ça va de soi.
Et j'ai l'impression finalement, Fatou Sossar, que ce soit d'ailleurs en Afrique ou en Europe, que le travail des femmes, avant d'être un sujet de débat, c'est d'abord un deuxième revenu dans le couple.
C'était un deuxième revenu, mais parfois au Sénégal, ça peut être le premier revenu. Parce que vous savez, depuis les années de sécheresse des années 70 et l'ajustement structurel des années 80, c'est là où les femmes sont sorties des maisons parce que les entreprises ont fermé, il n'y avait plus de revenus du mari. Et parfois, le salaire de la femme peut être le premier revenu du foyer. Et dans un contexte où les hommes sont les femmes extrêmement pauvres, c'est le petit travail dans l'informel des femmes qui soutient les familles.
C'est intéressant ce que vous dites sur le juge. Je me permets de vous interrompre parce que je voudrais laisser réagir peut-être Margaret Marbani. Mais quand la femme, ça devient le revenu central parce qu'il y a eu, du fait de la crise, un problème pour l'emploi des hommes. On a vu ça ces dernières années avec les faillites dans l'industrie, en fait, avec l'augmentation du chômage pour des hommes qui occupaient massivement des emplois dans l'industrie, notamment aux États-Unis, et les femmes qui étaient plus dans des emplois de service, qui n'étaient pas dans les usines.
Mais oui, parce que l'idée de la femme au foyer, l'idée du chef de famille, l'idée de monsieur gagne-pain, toutes ces idées-là, elles peuvent flotter complètement au-dessus de la réalité. Il n'empêche qu'elles sont agissantes. Mais on l'a vu, cet exemple de Dani qui est pharmacien, qui ne veut pas, qui veut voir sa femme à la maison. Bon, là nous sommes... Tout ça montre bien... Effectivement, on l'a vu avec le chômage chez nous, on l'a vu dans de nombreux pays, le travail des femmes peut bien être le revenu principal, c'est pas pour autant qu'on ne le met pas en cause. Et tout ça nous montre bien à quel point le droit au travail, le droit à l'emploi, il est évident pour les hommes, il est tout à fait contingent pour les femmes. Et j'avais envie, en écoutant ces témoignages, de retourner la question de votre, de renverser la question de votre émission et de demander, le travail libère-t-il les hommes ? Est-ce qu'on leur pose la question ? Est-ce que l'on se pose cette question en ce sens ? Est-ce qu'au fond, ça vaut le coup qu'ils aillent travailler si leurs femmes gagnent bien ? Et oui, mais c'est une question qui se pose dans la réalité, mais jamais on ferait une émission là-dessus, n'est-ce pas ?
Fatou Sossar, qu'est-ce que vous en pensez ? On renverse la question. En effet, je vous ai interrompu tout à l'heure, pardonnez-moi.
Oui. Donc, vous savez, nous avons mené des études dans la banlieue de Dakar. Évidemment, ce que nous disons ne concerne pas la majorité, ça concerne juste quelques catégories du milieu ouvrier où les usines avaient fermé et les femmes étaient obligées de prendre en charge la famille. Nous connaissons aussi des familles, quand je travaillais et je fais mon ouvrage pour la République, des femmes qui sont multimilliardaires pendant que leur mari était un marabout, donc ils ne travaillaient pas. Et ça ne leur posait pas tellement de problèmes. Mais la vérité, c'est que la majorité des femmes n'ont pas accès à un revenu régulier. Parce que quand nous prenons les statistiques, le secteur de l'industrie qui emploie le plus, les femmes sont faibles là-dedans, elles ne sont que 22%. Ou 23%, je crois. Même dans les PME, elles ne sont que les tiers. Et la fonction publique, elles sont 24%. Donc, la majorité des femmes n'a pas accès à un travail salarié.
Ça veut dire qu'attendez, on est très très loin de la parité dans la fonction publique dans un pays qui a quand même voté il y a quelques années sous la présidence d'Abdoulaye Ouad une loi sur la parité des femmes en politique. Ça peut sembler paradoxal.
Oui, c'est nous-mêmes qui avons mené la bataille au niveau de notre laboratoire en créant le caucus des femmes leaders qui a fait la tournée sur l'ensemble du pays pour sensibiliser. Donc nous avons participé largement à cette victoire de la parité. Mais c'est la parité politique. Ce n'est pas la parité dans l'emploi, mais dans un secteur.
Oui.
Parce que dans le secteur de l'emploi, il y a une barrière d'entrée qui est la qualification professionnelle. Et les femmes ne sont pas allées à l'école. Les femmes sont les moins bien formées. Donc il leur est plus difficile d'avoir accès à un emploi officiel dans les secteurs, que ce soit de l'industrie, sinon elles vont être ouvrières ou autre chose.
Oui, mais on a quand même maintenant, une parité filles-garçons à l'école primaire, et on n'en est pas très loin, me semble-t-il, dans l'enseignement secondaire, voire même dans certaines zones où il y a plus de filles que de garçons dans certains lycées. Et il y a maintenant des femmes, beaucoup de femmes qui sont diplômées, notamment des écoles privées de management. Alors, est-ce que ça ouvre des carrières et des portes pour les femmes?
Oui, à l'avenir. Mais les statistiques que nous tenons, ce sont les dernières statistiques. Donc, pour le moment, l'écart entre la fonction publique, c'est 24,5%.
Oui. Mais sur le secteur privé, est-ce que, on le sait, les diplômés en Afrique sont massivement au chômage. Est-ce que les femmes qui sont diplômées de ces écoles de management, par exemple, sont moins au chômage que les hommes ou pas?
En réalité, les diplômés de toutes ces écoles privées, nous avons mené aussi une étude où vont les filles après le bac. Celles qui ne vont pas à l'université vont plus dans ces écoles privées. Mais elles vont se retrouver à ouvrir leur petit business. Elles vont avoir un master en management, mais elles vont ouvrir un salon de coiffure, une restauration, autre chose. Elles n'ont pas de travail. Parce que les formations qu'elles ont reçues ne trouvent pas de débouchés sur le marché. Tout le monde fait banque, les banques ne vont pas recruter chaque année. Elles font banque, marketing, management, communication. Ce sont ces formations-là que l'on offre qui n'ont pas de prise sur la réalité du marché du travail. Mais la majorité de ces femmes vont se retrouver non plus dans l'informel, mais elles vont formaliser ce que d'autres qui n'ont pas été à l'école faisaient, mais elles vont le faire avec plus de bonheur, en tout cas plus de succès. Donc il y a beaucoup qui vont devenir des femmes entrepreneurs, qui vont ouvrir leur propre business, avec leurs nouvelles compétences et améliorer leurs services.
Et par rapport à la vie personnelle, puisque à la question « le travail libère-t-il les femmes ?», ça sous-entend aussi une émancipation personnelle dans sa façon d'être une femme. On le voit, il y a une tendance quand même à l'augmentation du divorce dans plusieurs pays d'Afrique. Au Sénégal, il y a toujours eu pas mal de divorces, notamment à Dakar. Est-ce que le travail des femmes, ça modifie en profondeur la société, les relations entre les hommes et les femmes, comme le laissait entendre finalement Dani, notre pharmacien au Cameroun, qui n'avait pas du tout envie que sa femme travaille?
Je ne suis pas sûre que ce soit forcément le travail. Ce sont les conditions difficiles où peut-être les deux conjoints ne sont pas en mesure de faire face à leurs besoins, aux besoins de la famille, qui entraînent des conflits. Il est arrivé de rencontrer des hommes, un instituteur qui me disait, mais qui n'aimerait pas que sa femme ne soit pas vendeuse au port, parce que le salaire unique ne permet plus à une famille de s'en sortir.
Oui.
Maintenant, ça peut amener des conflits parce qu'ils n'ont plus le même projet de famille. Il n'y a pas longtemps, je travaillais avec des groupes de femmes et les filles disaient que l'homme est le pourvoyeur de ressources pour le ménage. Parce que les hommes se plaignaient que leur femme ne participe pas. Alors qu'elles ont Bac plus 5, elles ont un revenu élevé, mais elles refusent de participer au ménage. Et les femmes disent, oui, c'est à l'homme de le faire. Mais ça, c'est la menace de la polygamie qui fait que la femme refuse de contribuer. Donc il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu. C'est l'insécurité par rapport à l'avenir du ménage. Ce qui est certain, il y a de plus en plus de divorces, ça c'est clair. Il y a une très grande instabilité. Mais il y a un calcul de part et d'autre. Autant les femmes vont chercher des hommes qui ont des revenus, des ressources, autant les hommes aussi cherchent des femmes qui ont un emploi, une activité économique.
Ouais.
Elles qui n'ont pas de moyens vont être larguées. Donc il y a le calcul se fait de part et d'autre, à la fois des hommes comme des femmes.
Et on le voit bien, le travail s'insère de manière très complexe hein, dans les relations hommes-femmes. Quand vous disiez qu'il y a des femmes avec Bac plus 4 ou Bac plus 5 qui disent à l'homme c'est à lui de pourvoir à mon bien-être matériel, est-ce que ça veut dire que c'est pour éviter la polygamie? C'est ça, pour se garder d'une situation de polygamie en obligeant l'homme à payer et du coup à ne pas avoir de tentation de se retrouver avec plusieurs épouses où ça coûterait de plus en plus cher?
Non, c'est parce qu'elles ne sont pas sûres du lendemain. Elles n'ont pas envie d'investir.
D'accord.
Demain, elles se retrouvent dans une situation où il y aura une nouvelle épouse.
Ouais.
Et le même problème, on va le retrouver chez les migrants aussi. Les migrants, je fais des va-et-vient avec l'Espagne, par exemple. Les hommes nous posent le même problème. Ils amènent leurs femmes. Il est plus facile pour les femmes de travailler parce qu'elles peuvent être dans le nettoyage, dans un certain nombre d'activités. Mais elles vont accumuler pour se faire une maison de retraite au Sénégal et ne pas investir dans le ménage. C'est ce que me reprochent les hommes. Elles ne le reconnaissent pas. Donc la question du salaire est en train d'être une question de conflit aujourd'hui parce que c'est l'utilisation, le contrôle des ressources. Chacun a envie d'avoir un regard sur les ressources de l'autre et cela ne se passe pas de cette manière. Et en même temps, comme on est dans un contexte où la polygamie est une réalité, que l'insécurité face à une probable polygamie de son mari, qui fait que la femme aussi réfléchit et dit « Non, je ne veux pas mettre toutes mes ressources pour demain me retrouver en train de partager les fruits de notre travail
ouais.
commun avec une autre femme ».
Est-ce que le travail des femmes libère les femmes? En tout cas, à cette question-là, clairement, on comprend que ce qui compte, c'est la sécurisation de sa vie hein, pour les femmes. Probablement encore davantage que pour les hommes. Merci beaucoup, Fatou Sossar, d'avoir été en ligne avec nous. Vous êtes sociologue à l'université Charanta Diop, où vous dirigez le laboratoire Genre et Recherche Scientifique. Dans quelques instants, on vous donne la parole, les voisins, les voisines, si vous souhaitez réagir. Le travail libère les femmes, à quel prix d'ailleurs? 33 1 84 22 71 71, appelez-nous. Choices. Now we found the oasis. Yes, we found the oasis. Stock, Working Day and Night chez 7 milliards de voisins. On est en direct sur RFI du lundi au vendredi. Et aujourd'hui, nous posons la question à nos invités spécialistes des études sur les femmes et le travail. Le travail libère-t-il les femmes? Et bien évidemment, vous avez la parole, que vous soyez voisine ou voisin, au 33 1 84 22 71 71. On entendait cette sociologue sénégalaise Fatou Sossar tout à l'heure. Françoise Milewski, vous êtes économiste et spécialiste des questions de genre à Sciences Po. Vous souhaitiez réagir notamment sur la problématique, on le comprenait bien, l'argent était en fait au centre à la fois des conflits dans le couple quand la femme accède au travail et les conditions de travail également.
Oui, je crois que ce qui était très caractéristique dans ce qui a été dit, c'est il y a au moins deux choses. C'est-à-dire, quand elle cite l'exemple d'une femme qui fait une école de management qui se retrouve à ouvrir un salon de coiffure, ça montre bien que il faut que les femmes puissent accéder à la formation, à l'éducation, c'est un élément essentiel pour s'insérer sur le marché du travail, mais malheureusement ça suffit pas. Ça suffit pas parce qu'il faut qu'il y ait une reconnaissance de la qualification et une reconnaissance des compétences des femmes. Et on est toujours dans cet écart, c'est-à-dire qu'une femme peut être très bien formée et puis elle trouve pas d'emploi. C'est vrai dans tous les pays, elle trouve pas d'emploi correspondant à sa qualification. On considérera qu'un homme est... Ça a été dit tout aussi au début de l'émission, c'est-à-dire l'enseignante à qui on ne confie pas une salle, une classe de première
ça,
tout de suite.
C'est le cas à tous les niveaux de qualification.
C'est le cas à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'à la fois, souvent, il y a des femmes qui sont formées à des qualifications qui sont peu demandées sur le marché du travail, donc il y a des biais dans la formation, mais il y a également un problème de reconnaissance de la qualification.
Margaret Marwani.
Oui, moi, ce que j'aurais aimé lui demander, c'est au fond si ce problème des jeunes femmes diplômées qui ont bac plus 3, bac plus 5 et qui ne trouvent pas d'emploi à leur niveau, est-ce que c'est caractéristique des femmes ou est-ce que ça joue aussi pour les hommes? J'y pense parce que, par exemple, au Maghreb, c'est un problème qui vaut pour les femmes, qui vaut
pour
les hommes.
C'est la même situation, on est bien d'accord. Non, le chômage des diplômés est un phénomène massif qui c'est touche les hommes et les femmes, mais avec cette caractéristique peut-être d'une forme de déclassement un peu plus prégnant pour les femmes. On va donner la parole à un auditeur, Oscar, qui nous appelle de Jérusalem. Je rappelle le numéro du standard, 33 1 84 22 71 71. Bonjour Oscar.
Oui, bonjour.
Oscar, vous êtes congolais, archéologue en Israël aujourd'hui, c'est bien cela?
Oui, c'est ça, justement.
Et vous souhaitez participer à l'émission et donner votre point de vue, puisqu'après tout, les hommes aussi ont le droit de répondre à la question et d'avoir un point de vue. Le travail libère-t-il les femmes?
Justement, c'est ça, j'ai trouvé que le sujet est intéressant. Parce que moi, je disais, essentiellement, le travail libère et humanise tout homme et toute femme. Donc, il n'est pas lié à un genre quelconque. Le travail, en fait, ne doit pas être fondement d'objet idéologique ou fondement idéal, fondé sur l'idéologie ou masculine ou féminine ou féministe. Parce que moi-même, je sais que j'ai connu des collègues avec qui j'ai étudié depuis l'école secondaire et des filles qui, très intelligentes, plus que les hommes. Et donc, ce qu'il faudrait... le point sur lequel peut-être il faudrait insister, ce sont les compétences et non pas les idéologies qui, féminines ou masculines ou féministes. Si la femme est compétente et que le travail qui est proposé, elle peut le faire et l'assumer avec toutes ses responsabilités, je crois qu'elle mérite, pour moi, elle mérite à 100%.
Qu'est-ce que vous constatez dans le pays où vous habitez aujourd'hui, Oscar?
Aussi, par rapport à mon pays d'origine et la RDC, ici, je trouve que non, il y a beaucoup, en tout cas, il y a beaucoup de femmes qui sont insérées dans la société israélienne. Et même ce que je ne pouvais pas imaginer, par exemple, dans mon pays, ici, je l'ai trouvé. Vous voyez,
en Israël.
Oui, en Israël, que ce soit en sécurité, dans les bureaux où je passe, je trouve la plupart, vraiment, je trouve que la société est équilibrée. Et équilibré, c'est selon les compétences.
Ouais.
Et non pas selon les gens.
Ça, c'est ce que vous constatez sur la société israélienne. Merci beaucoup, Oscar, de nous avoir appelé. Alors, Oscar nous dit la question de la libération de soi, en fait, de l'individu par le travail, c'est pas lié au genre. Et pourtant, on observe une féminisation des métiers. En tout cas, il y a bien des métiers de femmes et des métiers d'hommes encore aujourd'hui, et voire encore plus dans certains pays, notamment en Europe, Margaret Marvani.
Oui, oui, oui. Il y a toujours des métiers d'hommes, des métiers de femmes. Ça, c'est vrai que la ségrégation reste très forte, très prégnante, en dépit d'une féminisation très forte, très massive du marché du monde du travail en France et partout en Europe et dans d'autres pays du monde. Donc, je pense que la question qui se pose toujours est celle de la valeur sociale du travail. Cette personne qui nous parlait à l'instant parlait de compétences. Il faut que les hommes et les femmes soient employés selon leurs compétences. Mais précisément, qu'est-ce que c'est que la compétence et comment est-ce que l'on définit la compétence et comment est-ce qu'un homme et une femme ayant le même diplôme, ayant les mêmes qualifications professionnelles, se présentant chez le même employeur, ils n'auront pas le même job. Et donc, la discrimination, elle commence au premier emploi.
Comment expliquer qu'aujourd'hui, on ait des femmes qui soient absentes des secteurs les plus porteurs à haute technologie, comme par exemple l'intelligence artificielle, même si c'est en train de changer? Il y a, je lisais encore tout récemment qu'il y a 20% de femmes chez Arianespace, donc avec des métiers très technologiques, mais quand même, ça reste encore... Est-ce que les femmes ne font pas, dans le fond, tout en étant très diplômées, elles sont plus nombreuses en master, par exemple, aujourd'hui, que les hommes en France, mais est-ce qu'elles ne font pas les mauvais choix depuis le début, finalement, d'une certaine manière?
Je crois qu'il faut faire attention à ne pas faire reposer sur les femmes les discriminations et les inégalités. Alors, c'est vrai qu'on est dans une réalité très, très, très inégalitaire du point de vue des formations. C'est vrai pour l'éducation supérieure, comme c'est vrai pour les formations courtes. Aujourd'hui, en France et en Europe, il y a 30% de femmes dans les écoles d'ingénieurs. C'est-à-dire que le poids des stéréotypes est très fort. Il est très fort dans les familles, il est très fort auprès des éducateurs, il est très fort pour tout le monde, donc y compris les femmes en particulier.
Et c'est ce qui détermine donc, en partie les choix des femmes.
Il va déterminer des choix professionnels plutôt vers des secteurs où elles s'occupent des autres, plutôt que les secteurs techniques.
On laisse la parole à une dernière auditrice, si vous êtes d'accord. Inès nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Vous êtes à Pétionville, en Haïti, à Port-au-Prince, quartier privilégié de Port-au-Prince. Bonjour Inès. Inès, est-ce qu'on est bien en ligne avec vous en direct? Ah, elle nous a...
Bonjour Emmanuel, oui. Bonjour les voisins, bonjour les voisines. Vous tous, je souhaite une bonne continuité pour 2019.
Et merci à vous de nous appeler de si bon matin en Haïti. Alors, le travail libère-t-il les femmes? Votre réponse en tant qu'haïtienne? Il nous reste vraiment une minute, Inès. Est-ce que vous nous entendez?
Moi, particulièrement, je peux le dire... D'accord.
Allez-y, Inès.
Parce que je me suis reconvertie, je me suis donné une nouvelle orientation, je suis l'ex-directrice des télécommunications d'Haïti. Maintenant, j'accompagne des femmes de culture maraîchère, je les aide à être autonomes et je sens un engouement que les femmes maintenant ont pour n'être plus un objet à la maison, mais pour être utile à la société, au pays, à la famille. Le travail libère parce que le travail change la mentalité de la femme.
Merci à vous Inès pour ce témoignage d'Haïti et merci à vous Margaret Marouani. Vous avez publié l'ouvrage collectif « Je travaille, donc je suis ». Quelques éléments de réponse, en tout cas, on a entendu aujourd'hui dans cette émission aux éditions La Découverte. Françoise Milewski, merci à vous, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques et du laboratoire Pressage de Sciences Po. Et puis merci bien sûr à toute l'équipe, Sigrid Azerwal, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Didier Cherouz. Et merci aussi à vous tous, les voisins et les voisines, de vos témoignages, de votre franchise aussi, qui n'est pas forcément facile à assumer, et des points de vue toujours tellement différents dans cette émission. Demain, 7 milliards de voisins, vous aurez la parole sur les villes africaines. Quelles sont les initiatives citoyennes qui créent les villes africaines de demain? Les habitants vont faire changer les villes sur le continent africain? C'est à vous de répondre. Et c'est Chantal Leroux qui sera aux commandes de l'émission avec toujours le même numéro de téléphone enregistré dans vos smartphones. À demain.